rire dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Au suivant, au suivant.
Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord.
Eh bien, bonjour chers auditeurs et chères auditrices.
Eh bien, oui, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Bonjour.
Aujourd'hui, comme Gwen l'a souhaité, puisque tout ce qu'il souhaite, il a. Pour ou contre les suites au cinéma? C'était le grand débat de...
Oui, c'est ça.
Le casque et l'épée. Harry Potter 14.
Ah bah non, ça va pas être possible.
7, Transformers, enfin, 7 et 1. 3, 4 bientôt. Very Bad Trip 3. Pirates des Caraïbes 5, Fast and Furious 6, Cars 2, bientôt 3.
Ouais, bah oui.
Les suites de films sont légion sur les écrans.
Non, vous inquiétez pas, Hugo a vu Amour d'Heineke, c'est pour ça qu'il est un peu au ralenti.
Oui. Depuis quelques années, en plus des innombrables suites qui débarquent dans les salles de cinéma, on voit également apparaître des crossovers. Qu'est-ce que ça, Gwen? Crossover.
C'est une voiture.
C'est bien. Et des reboots.
Oui, les reboots, oui, bah, c'est le recommencement, quoi. On reboot l'histoire.
Superbe. Très beau mot français. Généralement réservé à l'univers des super-héros.
Pas que.
Ainsi, Avengers est ce qu'on appelle dans l'univers des comics books américains un crossover. C'est-à-dire un épisode qui mêle plusieurs séries. La maison Marvel, qui n'est pas des glaces, et passer maître dans l'art de réunir des héros pour des épisodes choraux. Mais bien sûr, ce n'est rien à voir avec la mer.
Ben oui, bien sûr.
C'est choral, comme Gwen a bien chanté. Généralement, très apprécié des fans. On va accélérer un peu, parce que demain, on y est encore.
Merci.
The Amazing Spider-Man. Sorti donc...
Ben, l'année dernière.
C'est bien en été. Est un exemple de... Reboot. On relance une franchise.
Une franchise.
Ah, merci.
C'est un produit, quoi, maintenant.
C'est vrai. En changeant le casting, le réalisateur et même le scénario, c'est précisément ce que Christopher Nolan bien, a fait en remettant Batman au goût du jour sous les traits de Christian Bale.
Christian Bale, ouais, ouais. Et que d'ailleurs, il va le faire pour... il l'a fait, puisque le film va bientôt sortir, sous les traits de Superman.
Tout à fait. Après les films donc de Tim Burton, puis de Joel Schumacher, avec le succès que l'on cesse.
Oui, oui.
Hollywood capitalise régulièrement sur le succès des franchises fondées sur plusieurs épisodes pour faire le plein au box-office. Et les films de super-héros de nouveau en vogue depuis la série des X-Men représentent en particulier un pari peu risqué pour l'industrie du cinéma que certains estiment en perte d'inspiration. Pour Roger Ebert, un critique américain influent, le public a également sa part de responsabilité dans la prolifération des suites et autres déclinaisons. Si les studios misent autant sur des projets faciles, c'est parce que le public se déplace en masse pour retrouver sur grand écran les héros qu'il apprécie. C'est-à-dire moi. Le critique va jusqu'à dénoncer la paresse des spectateurs, c'est-à-dire Gwen, qui ont selon lui peur de la nouveauté. Était-ce vrai ou n'était-ce pas vrai, Monsieur Gwen?
Moi, je dirais que c'est un peu 50-50 parce qu'effectivement, on est dans ce que cette vague nostalgique qu'on a connue musicalement aussi, hein, tous les trucs des années 60, 70, les années disco. Et effectivement, le cinéma, évidemment, travaille. Mais j'ai appris que là, il allait avoir bientôt la sortie d'Albator. Donc, par contre, en animation, hein, pas en film.
Ah, mais il fait peur. Et je voyais bien Gérard Depardieu dans le rôle d'Albator. Non.
Oui. Du mécanicien, par contre, puisqu'il avait un peu...
Oui, c'est vrai. Ah oui, bien vu ça. Non, mais il est trop grand. En dépit de ces critiques, certaines suites parviennent à remporter l'adhésion du public et même à séduire les critiques en apportant une dimension supplémentaire à l'histoire originale. C'est quand même poursuivre un sondage, donc un sondage. Merci.
Oui.
Pour ou contre donc des suites au cinéma, donc il y avait 61% de oui et 29% de non. Il n'y avait pas de casque bleu, donc c'était oui ou non. Toi, tu es pour ?
Moi, je suis... Non, mais je suis pour, mais... Attends, je suis pour, mais dans la continuité de Nolan, hein, pas dans le style on va faire des suites parce qu'il faut engranger des sous, mais qu'il y ait une véritable histoire et des véritables comédiens derrière.
Oui, pas comme les suites françaises. Voilà. Et voilà, ça s'est dit.
Voilà, tout à fait, je suis d'accord.
Donc, trop de suites au cinéma, M. Gwen.
Oui, je confirme.
Bon, ah, tu étais pour, maintenant tu dis aussi que tu es pour. Non.
Ah non, mais je suis pour qu'il y ait des suites, j'ai pas dit qu'il y a obligatoirement une prolifération.
D'accord.
Attention.
Depuis le début des années 2000, une tendance pénible frappe le cinéma. La multiplication des suites ou des préquels. Hein. Là où les suites étaient auparavant de vrais films avec un vrai scénario, je pense par exemple à la série des Indiana Jones.
Ah oui, c'est pas faux.
Enfin, sans le 4. Ou celle de Retour vers le futur, l'impératif de rentabilité donc impose aujourd'hui des cadenas de sorties horribles et le scénario qui va avec un film tous les 2 ans.
Et encore, il y a pire. Hein.
En un peu plus de 20 ans, les suites ont rapporté en France seulement environ 10,5 milliards $. Donc en tout et depuis 2000, une bonne centaine de films ont donné lieu à une ou plusieurs suites. Je ne comptabilise bien sûr pas les films prévus en plusieurs parties, hein, comme Kill Bill, etc.
Voilà, c'est ça.
Ou French Connection.
Hein, oui, mais c'est-à-dire que c'est soit ils étaient trop longs, donc on a divisé en deux pour vraiment faire l'histoire.
Comme plutôt. Le Silence des Agneaux.
Oui.
Non, Le Seigneur des Anneaux.
Le Seigneur des Anneaux, ouais.
Oui. Parce que ça, c'est une œuvre à part entière.
Oui,
c'est
puis
pas
voilà, et puis le Hobbit, parce que Peter Jackson avait les moyens financiers, et puis surtout qu'il voulait vraiment donner une belle explication de...
Oui.
De comme, Bilbo.
Oui, bah oui, toutes les adaptations de livres, on peut dire.
Voilà, c'est ça.
Sauf quand la période de publication correspond à celle du film. Il est par exemple indiscutable que la série des Harry Potter a été écrite, du moins en ce qui concerne les derniers épisodes, avec la perspective évidente d'une adaptation ciné.
Alors moi, je vais faire en 3 parties. Hein. D'abord, il y a ce qui est l'horreur. Après, il y a les films d'action et finalement, tous les autres. Et puis, on aura une petite partie, évidemment, vers la fin pour les... Français, on va s'amuser, c'est une belle fin, n'est-ce pas? Donc évidemment les horreurs, on a déjà les aliens, hein, puisque je veux dire il y a quand même 4 films, le premier évidemment de Ridley Scott, ensuite gros réalisateur, puisque c'est souvent ça, c'est d'abord il y a un grand réalisateur qui crée le premier film, qui va attirer évidemment un public, des fans, et après par contre on commence à taper dans les réalisateurs qu'on connaît moins et les acteurs qui vont de pair. Alors évidemment, le premier Alien, c'est en 86. Puis donc après, évidemment, on a eu le retour avec les Marines. Et la petite fille et le... Et
surtout
Newt. Newt et surtout le chat. Le chat était très important puisqu'il disparaît à partir du 3. En 92, il y a David Fincher qui reprend. Donc là, ça se passe évidemment dans les prisons. Et puis évidemment...
Mister Jeunet.
Oui, en 2004. Alors là, par contre, c'était le... Je pense que c'était dans l'air du temps. Tu sais, c'est les méchants contre les méchants. Donc on a eu notre Alien versus Predator.
Ah oui.
Et puis en 2008, il y a évidemment Aliens. Au pluriel, contre Prédateur, le Requiem, avec Monsieur Brody.
Ah, Jacques.
Et Jacques Brody. Puis évidemment, pour nous, mais ça on en avait un peu parlé dans notre série, avec celui de Jean-Pierre Jeunet, évidemment. Hein.
Le meilleur.
Ouais, je dirais presque le meilleur. Bon, sauf évidemment le premier, puisque évidemment le premier, c'est la surprise. Hein. Il y avait évidemment celui qui est le plus proche de nous, de 2012, le Prometheus, évidemment, de nouveau de Ridley, donc la boucle est bouclée, hein. C'est lui qui a fait le premier, c'est lui qui a fait le dernier.
Ils n'avaient pas une suite à ça, non?
Oui, logiquement c'est prévu, mais en fait non, ils vont faire un distinguo parce qu'il y avait un truc à faire, justement un arrangement entre Alien et Blade Runner. Il y a les histoires des réplicants.
Entendu.
Et puis, il y a aussi d'autres suites. Mais alors là, on va commencer à attaquer les séries sans fin. C'est les Halloween, évidemment. L'épisode de Michael Myers.
Bonne tarte au cou.
Et voilà, c'est ça. Et de Sam Loomis, puisque quand même, l'acteur Donald Pleasance avait quand même joué plusieurs films, 3 ou 4 films. Il y avait aussi Jamie Lee Curtis. Donc, le premier est en 78, de John Carpenter. Donc, Halloween, la nuit des masques. Puis, il y a eu le 2 en 81, le 3 en 83, donc le sang du sorcier. En 83, c'est le retour de Michael Myers. En 89, la revanche de Michael Myers. En 95, on est au 6e, c'est la malédiction de Michael Myers. En 7e, en 98, 20 ans après, il revient. Et puis là, évidemment, on a en 2002, la résurrection, on est au 8e. En 2007, on est au 9e, t'as Halloween. Et là, effectivement, c'est Rob Zombie, notre cher Rob Zombie du groupe White Zombie. Là, c'est le reboot, puisque là, on revient à la création du personnage de Michael Myers. Et par contre, dans le rôle de Loomis, ce n'est plus notre cher Donald Pleasance, oui, mais Michael McDowell, qu'on avait connu dans Orange Mécanique. Et là, par contre, de nouveau une suite, puisqu'il y a eu le Halloween 2, donc 20 ans plus tard, toujours de Rob Zombie. Donc, c'est le remake du premier de Carpenter. Donc, 20 ans après, les retrouvailles entre la frangine et le frangin. Alors, évidemment, on a là aussi les destinations finales, puisque tout, hein, tous les gens...
Jusqu'à 5.
Ouais, ouais, jusqu'à 5. Alors, par contre, là, il y a une histoire de chronologie, puisque tout commence avec le vol d'un 180 qui s'écrase le 13 mai 2000, puisque, en fait, le 2 sera un an pile plus tard, avec évidemment l'autoroute vers les ténèbres. Le 3, c'est 6 ans plus tard, après le vol 180, pile. Donc c'est le manège du diable. Puis après, il y a la course vers la mort, le 4e et le 5e, qui se passera par contre avant. Et la date finale, c'est le jour où l'avion s'écrase. Donc ah, il y a quand même une petite continuité. Voilà. Moi, j'avais aussi Hellraiser, qui est issu d'un court-métrage de Clive Barrer. Donc Hellraiser, donc c'est l'histoire avec les Cénobites, hein, qui sont quand même issus des premiers chrétiens. Ils existent, ces Cénobites, et qui avaient, eux, comme credo, la vie monastique communautaire. Là, c'est évidemment des créatures infernales menées par Pinhead. Moi, je trouve excellent quand même, hein, parce que Cénobites et Pinhead. Donc, c'est en fait le capitaine Elliot Spencer, hein, 1893-1930, qui est un explorateur et vétéran de la Première Guerre mondiale et qui a perdu toute humanité lors de la bataille des Flandres. Il devient le Pinhead, donc tête d'épingle, l'ange de la souffrance, le prince noir de la douleur, après avoir ouvert un puzzle démoniaque, le cube de Lament, la porte entre notre monde et celui des Cénobites. Alors évidemment, à l'inverse par contre de notre cher Jason et de Myers, Pinhead parle, lui par contre, mais il ne le fera pas comme notre cher Chucky, il préfère les monologues noirs et poétique. Donc il y a 9 Hellraiser, donc le pack, les écorchés, Hell on Earth, Bloodline, Inferno, Hell Seeker, Dither, Hell World et Revelation. Alors par contre là, on se trouve dans le cadre d'une suite où c'est toujours le même acteur, donc Doug Bradley qui a fait les 8 premiers et par contre le dernier c'est avec Stephen Smith Collins. Évidemment, notre cher ami Freddy, hein.
Oui.
Là aussi, on se retrouve...
Pas Mercury, hein.
Non, non, Freddy Krueger. Ah. Là, on se retrouve dans le même
avec
cas
Robert
que Hellraiser.
Oui, évidemment. Englund.
Voilà, c'est ça. Lui, il fait évidemment les 8 premiers. Et là, comme par hasard, le 9e, là aussi, on se retrouve dans un reboot.
Oui.
Puisque les Griffes de la Nuit, même titre que finalement le premier, hein, version française. Hein,
il est sorti quand, le dernier
En 2010. Et c'est Jackie Earle Haley qu'on a vu dans Les Watchmen, qui jouait Rorschach.
C'est un copier-coller du premier.
Non, c'est revisité parce que mais je sais qu'il y en a quelques-uns. Oui, mais c'était un petit peu. Il y a eu un vent comme ça un moment dans le cinéma américain à revisiter les films d'horreur des années précédentes et des fois c'est vraiment des copier-coller. Hein. Donc je trouve ça un peu dommage. Là, évidemment, et puis il y a notre cher Jason, évidemment. Donc les vendredis 13, il y en a eu que 12. Moi, j'attends le 13e pour le 13e du vendredi 13. Je trouve ça, ce serait assez original. Évidemment, là par contre. Chaque fois, c'est un nouveau réalisateur. Et puis, il y a aussi, évidemment, ce ne sera pas du tout le même comédien, puisque là, évidemment,
oui,
il est sous un masque. Oui, on aurait pu le laisser, oui. Hein, après tout. Hein. Donc, évidemment, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, la nouvelle terreur, Jason le mort, un nouveau défi, l'ultime retour, Jason va en enfer, et Jason X, pour le 10e. Et puis, il y a eu aussi, comme j'en avais évidemment parlé avec les Prédateurs et les Aliens, il y a un Freddy versus Jason. Hein.
Qui c'est qui a gagné alors?
Alors, techniquement, c'est Jason, mais puisqu'il a coupé la tête à Freddy, mais Freddy quand même ouvre les yeux, donc on ne sait pas vraiment. Puisque...
Ah oui, à la fin. Oui,
oui puisque il y avait. Puisque, évidemment, Freddy, puisqu'il est, il ne pouvait plus revenir dans le monde, il a utilisé Jason, puisque Jason, évidemment, est omnubilé par la mort de sa mère, donc il l'a utilisé pour revenir,
dans
entre guillemets, à la vie. Donc, évidemment, et puis le dernier, Vendredi 13, qui est un remake. Donc voilà, donc on se retrouve toujours dans ces années, évidemment, 2000 et passé, où on fait que des remakes et à n'en plus finir. Notre cher ami Saw, aussi, oui, évidemment.
Ils ont dû en faire qu'un.
Oui, le tueur avec un cœur, Jigsaw. Voilà, donc c'est évidemment l'histoire de John Kramer. Kramer contre Kramer. Donc, il perd son enfant à 7 mois de grossesse à cause d'un dealer qui a évidemment fait peur à sa femme. Et il est victime d'un cancer. Et donc, il va se venger, évidemment, des méchants, puisque c'est quand même un peu ça son fonds de commerce, hein, se venger des méchants. Alors, évidemment, ce qui est remarquable dans ces films-là, puisqu'il y a quand même, par contre, il y a 2-3 films qui ont été faits par le même réalisateur, c'est surtout que c'est les derniers quand même, puisque c'est évidemment aux États-Unis.
On en est où là, au Saw 7?
Oui, c'est ça. Alors, ça a été appelé Saw 3D. Évidemment, je pense plus pour les Français, puisqu'évidemment, il n'y a pas de jeu de mots, ni pour le Saw 6, ni pour le Saw 7. Voilà. Et puis, évidemment, si, puisqu'on reste un petit peu dans les sanguinolents et autres, nous avons, évidemment, le massacre à la tronçonneuse. The Texas Chainsaw Massacre. Évidemment, c'est une histoire de famille qui vit un petit peu à l'écart, puisqu'ils sont quand même un petit peu atteints, évidemment, de cannibalisme, on peut le dire, évidemment, et puis célèbre, évidemment, par son Leatherface, hein, puisqu'il n'a pas vraiment de visage, ce chat. Et en fait, c'était inspiré du serial killer Ed Gein, et qui était profanateur de tombes et tueur de femmes aussi, à Plainfield, dans le Wisconsin, où, évidemment, quand on a fouillé sa maison, on a quand même trouvé les restes d'une quinzaine de femmes. Donc voilà, évidemment, Massacre à la tronçonneuse 1, 2, 3, 4.
Change de marque de tronçonneuse, oui, pour chaque film.
Même pas, je pense pas. Avec René Zellweger et Matthew McConaughey. Hein,
quand même.
Eh oui. Massacre à la tronçonneuse, donc 5, évidemment. Le commencement, le reboot, version reboot en 2005. Évidemment. Massacre à la tronçonneuse 3D. Évidemment, donc c'est la suite de celui du premier de Top Hopper, et puis évidemment le dernier qui est un remake aussi. Donc voilà, on va clore un petit peu cette page de comment ça s'appelle,
sanguinolent.
Mais bon voilà, moi je trouve que c'est vraiment dans le fun de ces films d'horreur, c'est qu'évidemment on a un produit, on a une franchise. Après évidemment,
s'arrêter quoi.
Bah disons qu'après c'est toujours le cas, parce que c'est en fait c'est hyper simple, c'est-à-dire que tu as un méchant, tu le mets en face d'adversaire et hop, tu changes la situation à chaque fois. Donc c'est sans fin quoi. Alors évidemment, maintenant on va essayer de retrouver l'ancien, puisqu'on s'est perdu au fil des films. C'est un peu dommage, mais c'était là un peu comme ça. Et donc évidemment, d'où la vague des reboots et des remakes. Voilà.
Et des films drôles aussi caricaturaux comme Scary Movie.
Ça marchait sur le cas des Scream, parce qu'évidemment à l'époque de Scream, tout le monde s'est lancé dans les films d'horreur, donc ça devenait même pénible.
D'où la question qualité versus quantité. Moi je prendrais l'exemple d'un truc plus léger, hein. Toy Story. Bien.
Oui.
Et L'âge de glace.
Oui, voilà, oui. De Chris Wedge. Ouais.
En comparant les films Toy Story et L'âge de glace, on tient une bonne illustration de ce phénomène. Là où l'équipe de Pixar a produit 3 films en 15 ans, le premier Toy Story est sorti en 95, celle de L'âge de glace a pondu 4 épisodes en 10 ans, le budget du premier Toy Story était 2 fois moindre que celui du premier âge de glace. Donc pour le 3e épisode par contre, c'est l'inverse. Et pourtant il semble que la stratégie du producteur de L'âge de glace paye. Sa série cartonne et dépasse même en France Toy Story au box-office. Ce qui en même temps n'est pas très dur.
Oui, non, mais moi je trouve ça plus logique, parce que c'est vrai qu'effectivement l'un et l'autre vraiment ont une histoire, mais je pense qu'on s'ancre plus dans celle de L'âge de glace que dans Toy Story, quoi.
C'est vrai. Donc pour faire une bonne suite, on s'en doute, il faut un premier film qui a bien marché. Si on a dans l'idée d'en faire des suites, mieux vaut faire un film pour enfants ou un film de super-héros. Non, ce n'est pas pareil. Ça marche aussi avec des histoires plus compliquées, comme dans L'Auberge espagnole. Mais cela demande plus de travail. Il faut aussi des personnages attachants et transférables. Cela peut être un lion échappé d'un zoo, un mec qui se fait passer pour un juif du sentier ou un super héros. Le terme donc merci d'avoir rigolé tout tard. Le terme super héros est à prendre au sens large. Ce peut être Spider-Man, James Bond ou même Harry Potter. Un personnage hors du commun à qui il arrive des trucs de malade. Donc on place ensuite ces personnages dans une histoire qui ressemble à la première tout en étant originale sous certains aspects. En général, on développe quelques relations stéréotypées entre les personnages et on ajoute un nouveau pour toucher un public qui avait été laissé pour compte, hein, dans le premier épisode, la polémique autour du personnage de Jar Jar Binks.
Oui, par exemple, oui, qui a été viré.
Oui, qui a laissé des traces. Hein. Pour les films donc, de super-héros, il faut aussi trouver un nouveau méchant à chaque épisode. Mmh. Ensuite, on regarde ce qui se passe.
Oui, mais moi, je suis assez d'accord parce que tu vois, par exemple, pour en revenir à ton histoire appel de Toy Story, c'est que c'est toujours un peu la rengaine. C'est toujours, ils se font toujours virer par le gamin. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est assez, on va dire, chiant. Mais par contre, évidemment, dans l'âge de glace, au moins, ils évoluent, puisqu'après, il y a une création d'une famille. Évidemment, Manny trouve sa fiancée, et puis après, Diego trouvera la sienne dans ce qui est, pour moi, le meilleur, le quatrième.
Par contre, on peut observer la particularité quasi systématique, c'est-à-dire que le fait que le deuxième épisode est presque toujours le plus rentable, probablement parce que l'attente du public est très forte et le coût de production relativement bas. Le problème, c'est qu'on est très souvent déçu et ça se répercute sur le troisième épisode. C'est le cas donc pour Pirates des Caraïbes.
Non, mais le 2-3, moi je suis assez d'accord qu'il s'est bien marché. Par contre, moi le quatrième, c'était celui de trop. Tu vois, là par contre, à l'inverse d'Âge de glace, où le quatrième est. Voilà, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une franchise donc, avec Disney World. Et, bon, voilà. Parce que j'ai fait évidemment les films d'horreur. Donc là, on va s'attaquer évidemment aux films d'action. Donc, il y a L'Arme Fatale de Richard Donner. Alors là, on est dans le cadre où c'est toujours le même réalisateur et les mêmes comédiens. Donc évidemment, le premier, c'est La Rencontre en 1987 de Mel Gibson, dont Martin Riggs, et de Danny Glover, Roger Makoto. Donc ils se rencontrent. Évidemment, on est dans le cadre évidemment du spécial Amérique. Évidemment, inspecteurs,
le noir.
Voilà, qui sont carrément à l'opposé. Le dingo et celui qui est proche de la retraite. Donc évidemment, là, c'est un duo qui va attaquer un trafic de drogue. L'Arme Fatale 2 en 89, là c'est contre les Sud-Africains. Donc, et puis l'apparition du personnage de Leo Getz qui est joué par Joe Pesci, hein,
Okay.
Évidemment, L'Arme Fatale 3,
Trafiquant d'armes.
Ouais, Trafiquant d'armes. Et puis l'apparition évidemment de Lorna Cole, René Russo, qui sera donc la fiancée de Riggs. L'Arme Fatale 4, évidemment, contre des trafics
clandestins de
Chinois vers les États-Unis. Et évidemment, là aussi, on se retrouve dans le cadre où Riggs va être papa et de l'autre côté, Roger va par contre être grand-père. Donc voilà, évidemment, le plus proche de nous, Die Hard, évidemment, hein, l'inspecteur John McClane. L'Arme Fatale a commencé en 87 et l'année suivante, c'était Piège de Cristal, donc de John McTiernan. Donc McClane contre Hans Gruber, sous les traits d'Alan Rickman, donc des otages dans un gratte-ciel. Évidemment, là, l'histoire avec sa femme, puisque lui, John McClane, ça suit très famille. Hein. Donc, le premier, c'est avec sa femme. 58 minutes pour vivre en 90, donc contre le colonel Stewart.
Avec sa femme dans l'avion.
Voilà, avec qui il devient son ex. Une journée en enfer avec
le
John,
meilleur,
voilà, John McClane en 95, donc contre le frère du premier, hein, Simon. Mmh. Jeremy Irons, qui est effectivement pour moi le meilleur.
Parce que même le duo avec
Samuel L. Jackson dans ces épisodes-là, mais il y en avait un autre dans les deux premiers. Là, évidemment, New York qui a armé en prise. De toute façon, ça fait qu'augmenter. Parce que le début, c'est un immeuble, ensuite, c'est un aéroport. Là, c'est carrément New York. Retour en enfer de Len Wiseman, hein, Monsieur Underworld, en 2007. Avec là, par contre, c'est la fille contre Timothy Olyphant. Alors là, carrément, c'est les États-Unis qui sont pris en otage. Et évidemment, le dernier, Belle Journée pour Mourir de John Moore.
Là, celui de trop.
Et là, c'est carrément le monde entier qu'il faut sauver. Mais bon, en même temps, Bruce Willis, il sauve toujours le monde.
Ça se passe à Moscou.
Ça se passe à Moscou, évidemment.
Enfin,
là,
même à Tchernobyl.
Ouais,
enfin, on va pas le dire.
Ouais, oui, enfin. Avec son fils, évidemment, qui s'appelle John Jack. Bon, lui, il a choisi Jack, hein, mais logiquement, il s'appelle John McClane Junior.
Donc voilà. Spécialiste de la CIA.
Voilà, c'est ça. Donc moi je trouve que à la rigueur, c'est vrai que là il y a une franchise, on est dans le personnage de John McClane évidemment. Bon, par contre, le seul problème c'est que notre cher Bruce Willis, il est comme tous les hommes, il vieillit. Donc là ça va, il vieillit bien, hein, par rapport à certains acteurs, mais voilà, effectivement.
Il fait moins peur que Sylvester.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a Mission Impossible évidemment, hein, le premier qui était de Brian D. Palma en 96. Donc évidemment, là, on se retrouve, on a bien repris la série. Par contre, on va dessouder le légendaire Jim Phelps pour le remplacer par Ethan Hunt, cher Tom Cruise.
Emmanuel Béard.
Voilà, c'est ça. Et puis Jean Reno. En 2000, on a le deuxième de John Woo contre le virus, la chimère. En 3, DJ Abrams. Là, par contre, on se retrouve dans un truc où, effectivement, on trouve que des gros réalisateurs. Parce qu'on a quand même Di Palma, Who et Abrams, et notre cher monsieur Star Trek. Donc là, par contre, Hunt est à la retraite, mais il va revenir et va avoir quand même un sérieux adversaire, notre chef Philippe Seymour Hoffman, dit The Master. Et le quatrième, évidemment, le protocole fantôme.
Je crois que c'est le 3 aussi, le meilleur.
Voilà, et c'est fait par Brad Bird, qui est lui, par contre, plus connu, mais surtout pour avoir fait Ratatouille et Les Indestructibles, et avec notre chère Léa Seydoux en tueuse. Et évidemment, Michael Lindquist, qu'on avait vu, évidemment, dans Millennium version suédoise. Alors, il y a un 5 qui est prévu, là, par contre, en 2015, de Christopher McQueeny, donc qui avait travaillé avec Bryan Singer dans Usual Suspect, et qui avait déjà travaillé avec Tom Cruise dans Jack Reacher. Plus connu aussi comme série en 3 films, Le Flic de Beverly Hills, de notre cher Alex Foley. En 84. Donc le premier en 84, évidemment, la présentation de ce flic, parce que c'était l'époque des 80, toujours des un petit peu des bad boys, hein, flic. Donc il va évidemment aller enquêter à Beverly Hills pour un de ses amis, puis il va rencontrer évidemment ses deux collègues Rosewood et Taggart, qui vont évidemment faire appel à lui pour le deuxième, qui est par contre réalisé cette fois-ci par Tony Scott. Et le troisième sera fait par John Landis. Donc voilà. Alors, par contre, le troisième, bon, peut-être évidemment celui de trop, mais bon, ça, après c'est la franchise, hein. Il faut faire. Alors évidemment, on a aussi les héros, comme tu disais au début, les Batman, hein, celui de Tim Burton en 89, en 92 aussi, hein, sous les traits de Michael Keaton. Donc évidemment, le premier contre le Joker, sous les traits de Jack Nicholson, le deuxième contre le Pingouin, Danny DeVito et Michelle Pfeiffer. Miaou. Après, par contre, moi je trouve que c'est... Bon, c'est un peu la chute, évidemment, on tombe avec notre ami Joel Schumacher. Donc, Batman Forever, donc Val Kilmer, hein, contre Enigma, avec Jim Carrey et Tommy Lee Jones qui jouent Harvey Dent, donc double face. Évidemment, alors par contre, là, l'erreur de trop, le Batman et Robin.
Ah oui.
Avec George Clooney, hein, et Chris O'Donnell. Alors par contre, celui-là, il est naze, hein.
Mr. Avec Batgirl à la fin.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis évidemment, Poison Ivy, Mr. Freeze de Monsieur Schwarzenegger. Là, et il y avait même la présence de Bane, hein, quand même, qui est dedans. Mais bon, là, par contre, c'est un super soldat.
Il y a que les méchants qui sont bien.
Là-dedans. Oui, mais ça, par contre, évidemment, Nolan va reprendre tout ça. Et là, on a évidemment le Batman Begins en 2005, donc le préquel, hein, finalement. Et on va retrouver évidemment Christian Bale, Alfred sera joué par Michael Caine, Gordon, l'inspecteur Gordon par Gary Oldman et Lucius Fox par Morgan Freeman. Alors évidemment, dans le premier, évidemment, c'est Ra's al Ghul sous les traits de Liam Neeson et l'épouvantail. Et évidemment, le plus connu, The Dark Knight en 2008, oui, contre le Joker, Heath Ledger. Et voilà, le best, évidemment, avec Harvey Dent, Aaron Ackman, qui deviendra double face, et le dernier en date, le Dark Knight Rise en 2012, évidemment avec la présence de nouveau de Catwoman
et de Marion Cotillard.
Et de Marion Cotillard et surtout de Bane, que donne les traits Tom Hardy. Quand même, ça a quand même rapporté 3,7 milliards, dont les deux derniers ont rapporté à eux seuls 1 milliard chacun. Donc voilà, hein, je veux dire que là, c'est vraiment l'exemple. Bah, c'est-à-dire, oui, non, mais ça a marché parce que les films sont bons aussi, hein, parce que là, on a eu le cas de Spider-Man, donc de Monsieur Sam Raimi, hein, qui a fait le 1, le 2, le 3, avec notre cher Tobey Maguire, et vous me excuserez pour ma prononciation, de Kirsten Dunst, donc évidemment avec son fameux bouffon vert, hein, William Dafoe, évidemment, qui aura une suite puisque James Franco sera le fils et lui, il sera le nouveau bouffon. Donc évidemment le 2, le 3, à la rigueur qui est moi je dirais un peu plus puisqu'il y a l'homme des sables, Venom, qui par contre qui a été très très mal utilisé, alors je sais pas, faute de budget, faute de sous, on ne sait pas.
Scénario.
Voilà, donc ça a été repris, donc on a fait notre fameux reboot avec Monsieur Mark Webb, donc The Amazing Spider-Man, donc on reprend un nouveau acteur, Andrew Garfield. Par contre, là, l'héroïne, c'est plus Mary Jane, là, c'est Gwen.
C'est toi ?
Oui, c'est moi. Sous les traits d'Emma Stone, évidemment, contre les lézards, hein, notre cher Rhys Ifans. Et il y en a un prévu en 2014, qui sera évidemment en 3D, puisque là, évidemment, on retourne aux origines de Spider-Man, mais comics, puisqu'il y avait quand même un groupe distinct de 6 personnes, donc les Sinister Six, qui vont le combattre. Donc là, je vous donne en mille les nouveaux méchants du prochain Spider-Man. Donc Electro, qui sera joué par Jamie Foxx.
Très bien.
Le Rhino, Paul Giamatti et le vautour qui jouait par Colm Farrell. Ensuite, on a Superman, puisqu'on a quand même le cycle. Là, par contre, on se retrouve du même acteur, le cycle Christopher Reeve. Hein, donc, le premier en 78 de Richard Donner. Tiens, l'arme fatale. Donc, évidemment, sa naissance, sa rencontre avec Lex Luthor, qui est joué là par Gene Hackman, et Lois Lane, Margot Kidder. Le 2, fait par Richard Lester. Donc là, on arrive au Général Zod. Le fameux Général Zod, oui, qu'on verra dans celui qui va sortir, là, bientôt, évidemment. Superman 3, de nouveau de Richard Lester, en 83. Donc, là, c'est un type qui va créer un super ordinateur et, une kryptonite artificielle qui va transformer Superman. Le 4, en 87. Donc, c'est le retour de Lex Luthor, hein, qui va créer son homme nucléaire grâce à quelques cheveux. Oui, là, on tape dans les scénarios, mais on aura pire bien plus tard. Il y a eu des loupés, puisqu'il y avait des films qui avaient été prévus. Donc, un 5, qui est tombé à l'eau. Un Reborn, ici. Donc, c'est la résurrection de Superman. Et puis, il y avait un Superman Lies avec Nicolas Cage en tant que Superman. Et c'est là qu'on dit
Superboy.
Tant mieux, oui, évidemment. Puisqu'il y a le Superman Returns qui a été réalisé par Bryan Singer en 2006. Donc, évidemment, puisqu'il était parti retrouver ses origines dans l'espace, il revient et Lois Lane est mariée, évidemment. De nouveau, notre cher Lex Luthor, qui avait été prévu dans un des films naze, Kevin Spacey va. Alors, par contre, celui-là, il a oublié. Hein. Mais par contre, la Warner veut reprendre la saga Superman. Et évidemment, on a notre Man of Steel de Zack Snyder qui va sortir. Donc, avec Henry Cavill, Russell Crowe, Diane Lane, Kevin Costner, qui jouera le papa de Superman, Lawrence Fishburne et Amy Adams. Donc celui-là, évidemment, sous un scénario de Christopher Nolan. Donc après avoir pris Batman, il prend Superman. Il adore les
différences.
Oui, et puis là, évidemment.
Tu peux voir les bandes annonces, ça claque. Hein.
Et puis, évidemment, dans notre plus grande franchise de science-fiction, nous avons Au-delà de la limite, les Star Trek aussi. Ça, c'est bon, les Star Trek.
12 films.
12 films, et oui, dernièrement, dont le premier de Robert Wise en 79. Alors là, par contre, on se retrouve, c'est-à-dire qu'au lieu de créer vraiment un truc, c'est-à-dire que la série existait déjà, oui. Là, on va se retrouver dans le cadre où on va prendre les personnages de la série, on va les mettre au grand écran, petit écran, grand écran. Donc évidemment, on retrouve William Shatner, Leonard Nimoy, donc Kirk et Spock. Dans le 2, c'est pareil, puisque là, on va carrément. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans le 2, on voit le fameux Kobayashi Maru, qu'on verra évidemment dans le dernier de J.J. Abrams, hein, ce fameux vaisseau en détresse qu'on ne peut sauver. Et évidemment, le seul qui réussit, c'est le capitaine Kirk. Évidemment, apparition des Klingons, hein. Respect pour les geeks. Le 3, donc, qui est par contre là, est fait par Leonard Nimoy. Donc, on se retrouve carrément avec un des comédiens qui réalise son propre film. 86, donc évidemment, ça c'est la résurrection, c'est la recherche de Spock, hein, qui carrément fait renaître une planète. Il a fait le 3 et le 4, et le 5e, c'est le de trop, hein, comme on dit, de William Shatner en 89. Donc là, c'est carrément le demi-frère de Spock qui débarque sur l'Enterprise, qui dirige tout et qui veut carrément rechercher Dieu dans le fin fond de l'espace. On dit merci, alléluia. Il y a une très fort potentiel de geek, mais il faut quand même pas les prendre pour des débiles. En 91, on a le 6e.
Oh là là.
Oui, donc évidemment, hein, l'Empire Klingon veut faire la paix avec Starfleet, mais évidemment, on se retrouve évidemment comme dans les James Bond, évidemment, il y a des Klingons qui ne veulent pas abdiquer. Là, on va se retrouver bientôt dans le cadre en 94 de Next Generation, puisqu'évidemment, l'ancienne génération partie à la sauver des braves types vont disparaître dans une faille spatio-temporelle. Et oui, tout est possible en science-fiction, c'est ça pourquoi on l'adore. Évidemment, 60 ans plus tard, le capitaine Picard, donc sous les traits de Patrick Stewart, professeur X dans les X-Men, hein, si vous voulez voir à peu près à quoi il ressemble, il va les retrouver et c'est là qu'on va voir les anciens et les nouveaux. Et évidemment, ça va être la passation. Merci pour les geeks qui seront contents. Donc, oui. Évidemment, là, il y a 3 films avec la New Generation. Donc, le premier contact, Insurrection et Nemesis. Puis, évidemment, J.J. Abrams va reprendre tout ça sous son fameux préquel. Carrément, là, c'est Star Trek. Le John Kirk qui rencontre le jeune Spock. Chris Pine.
Qui est bien aussi.
Oui, il est super. Et évidemment, Simon Pegg qui joue Scotty. Carl Urban qui joue Dr. McCoy, Anton Yelich qui joue Pavel Chekhov, John Cho qui joue Hikaru Sulu, évidemment Joey Salanda qu'on a vu dans Avatar qui joue Uhura. Oui, c'est ça.
Avatar.
Avatar, oui.
Saldana.
Évidemment, c'est Eric Bana qui jouera le fameux méchant Romulien Nero. Évidemment, le prochain qui est déjà sorti, le Star Trek In Darkness de J.J. Abrams en 2013, évidemment.
Il est un peu moins bien, je suis
sûr. Avec notre cher Benedict Cumberbatch, dit Sherlock. Moi, je peux me lancer dans les comics aussi.
Oui, mais il y en a plein, parce que on n'a pas cité les Rambo et tout ça. Mais...
Bah, c'est-à-dire que déjà, les James Bond, je ne les ai pas fait parce qu'on en avait déjà parlé. Les Star Wars, c'est pareil, ouais. On en avait aussi parlé. Bon, Rambo, effectivement, là aussi. Après, c'est vrai que je pense que Sylvester Stallone, surtout dans les derniers, a voulu faire un petit peu un retour en arrière. Mm. Puisque là, évidemment...
Jusqu'à la fin, on le voit, il revient aux States.
Oui, mais il y a tout ce côté-là. C'est-à-dire que tu as ton personnage qui évolue. L'acteur aussi, hein, forcément, il évolue, il vieillit. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans les premières années où tu as dessoudé un méchant, mais tu as un deuxième, pouf, tu as un troisième, tu as un quatrième. Et puis, au bout d'un moment, tu regardes un petit peu en arrière. Puis, tu as aussi le problème avec les enfants, la femme qui disparaît. Moi, je trouvais que les derniers étaient pas mal, hein, justement, toute cette affliction. La disparition d'Adrienne, par contre, le dernier Rambo.
D'où le sujet « Quand s'arrêter ?». Donc, je vais prendre le cas d'école, hein, bien connu, Harry Potter.
Oui.
Qui n'a rien à voir avec le chat. Tant que la série est jugée assez rentable, elle se poursuit. Donc, le meilleur exemple donc, est celui de Mr. Harry Potter. En France, cette série a totalisé plus de 55 millions d'entrées. Donc, lorsqu'on regarde l'évolution au box-office, le succès s'émousse sur les ans. Mais lorsque l'on regarde ce que les films ont rapporté, on se dit qu'elle aurait pu être rentabilisée encore quelques années.
Oui, non, mais par contre, dans le Harry Potter, on va se retrouver dans un nouveau cas, puisqu'évidemment, on va se retrouver, un petit, je dirais pas à la Peter Jackson, mais tout comme. C'est-à-dire qu'évidemment, on arrive au dernier, le fameux septième, et on va faire un part 1 et une part 2, ce qui a été aussi dans le cadre de Twilight, où il y avait part 1, part 2, parce que évidemment, mais ce qui n'est pas plus nul, puisque évidemment, quand tu regardes les romans de Rowling, c'est-à-dire que le premier hein, de Harry Potter, il est tout fin, et plus tu avances, plus ils sont quand même sacrément costauds. Donc je pense qu'il y a aussi un besoin pour le réalisateur, puisque c'est Yates qui a fait les derniers de Harry Potter. Je pense qu'il y avait aussi un besoin d'être vraiment très très clair, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les premiers Harry Potter, on a vraiment un truc très gentillé, hein. Tu vois, le premier, c'est effectivement peut être vu par les petits. Par contre, les derniers, t'éviteras de les amener le voir, enfin du moins les voir en DVD désormais. Par contre, les Twilight, évidemment, je pense que là, il y a aussi un phénomène, parce que je veux dire, c'est pas des bénévoles, les types de Hollywood, hein, ils savent bien que si on peut faire deux films, c'est-à-dire que t'as 50 millions de spectateurs par film, ça fait quand même 100 millions plutôt que 50 millions.
Donc super héros ou non, cette question donc rejoint le sujet, comme on a pu en parler la semaine dernière, sur le trop grand nombre de biopics au cinéma. Donc actuellement, donc, les adaptations de tout type, les séquelles et reboots que produit donc chaque jour Hollywood font partie d'une logique purement commerciale, comme tu as pu l'expliquer. Mmh. Tant qu'il y a un public, il y a de l'argent. L'offre est continue et de plus en plus importante, au risque de saturer les cinémas du monde entier. Certains films attirant toute l'attention sur eux au détriment d'autres, en empêchant certains de rester assez longtemps à l'affiche, retirés trop tôt pour une question de rentabilité économique à court terme et de place disponible pour les nouveaux films. Je suis d'accord donc sur le fait d'offrir aux spectateurs une vraie diversité, mais je regrette de constater que cette course permanente au toujours plus, toujours plus gros, réduisent donc la présence des autres films qui n'ont pas les moyens de réaliser avec les nouveaux compresseurs américains, même si la promotion ne suffit pas toujours, hein, comme le Green Lantern et John Carter. Qui doit d'ailleurs avoir sa suite bientôt.
Ouais, ça. Bah ça, de toute façon, Green Lantern aussi, puisqu'il y a eu les Avengers. Je pense qu'il y a aussi la Ligue des Justiciers, donc Green Lantern va logiquement avoir sa suite.
C'est bon. Je suis donc pour les suites au cinéma, car certaines franchises ont eu la chance de pouvoir se renouveler artistiquement grâce aux talents qui ont travaillé dessus, comme vous l'avez cité plus tôt, Mr. G. Donc cela permet également de réaliser des expériences uniques, comme la saga James Bond, qui est le meilleur témoin de l'évolution du cinéma commercial pendant 50 ans, ou la saga Marvel, hein, ou maintenant Disney, faut-il dire.
Oui, plutôt, oui.
Dont sont issus les Avengers, multipliant les super-héros, isolés ou rassemblés en maintenant un univers commun.
Oui, parce que là, justement, on parlait de ces suites sans fin et qui s'enchaînent. Parce qu'il faut quand même savoir que les sauts, j'en reviens, c'est-à-dire qu'il y en a un en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, et 2010. Donc chaque année, il y a un saut. Depuis, ça a été coupé, mais bon, voilà. Alors évidemment, on se retrouve aussi, puisque tu disais que le public suit, moi je veux bien, mon cher, mais quand même, par exemple, dans les films comiques, style Beethoven, hein, quand même, puisque le premier sort en 92, donc ce fameux histoire de ce chien, là, ce Saint-Bernard qui arrive dans la famille Newton. Donc le premier est sorti au cinéma, le deuxième aussi, le troisième est sorti directement en vidéo, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième aussi. Alors là, on va de pire en pire. Hein. Donc évidemment, on a aussi les Police Academy, hein, évidemment, les histoires de l'agent Mahoney, Mose Houghton, Jones, Tackleberry, évidemment, Hook, Faulkner, évidemment l'agent Callahan aussi. Donc évidemment tout ce petit monde joyeux qui est évidemment obligé de rentrer à la police, évidemment. Donc là il y en a quand même eu 7. Ce qui est très marrant, c'est le dernier était à Moscou, hein,
finalement tout se termine à Moscou,
et logiquement il y en a un prévu cette année de 8e. Donc là je pense qu'on va s'attaquer un petit peu à un petit reboot, hein, à mon avis. On va se retrouver il y avait aussi, puisqu'on fait un peu dans les autres, il y avait les Highlanders évidemment aussi, hein, notre cher ami Christophe Lambert avec Sean Connery. Donc évidemment le premier c'est les débuts, le Highland. Alors par contre ça a été un cadre où, alors, c'est pas logique, puisque logiquement à la fin il ne doit en rester qu'un. Donc s'il y en a un, logiquement il n'y a pas de suite. Bah là, oui. Bah si, en 90 débarque le Highland 2, donc le retour évidemment, hein, comme notre cher Rambo, et puis oui, comme les aliens. Donc évidemment lui il est devenu entre guillemets pas le maître de la Terre, mais il a sauvé la planète grâce à un film qui protège la Terre des rayons, puisque je pense qu'on était dans l'époque du trou dans la couche d'ozone. Donc je pense que ça a dû faire, les mecs ont dû dire ouais, il y a un bon scénario à faire là. Voilà, et puis évidemment Michael Ironside, connu dans la série V, qui débarque en tant que méchant, puisqu'il, là c'est là qu'on apprend qu'ils viennent tous d'une planète, hein, que voilà, ils ont été envoyés pour tuer évidemment notre cher Connor MacLeod du clan MacLeod. Il y a un Highlander 3, alors chercher quand même l'erreur, hein, quand même. Et c'est-à-dire qu'à un moment il était poursuivi par Kane, qui jouait ici par Mario Van Peebles, et il l'a enseveli à une époque, puisqu'il était à cette époque-là au Japon évidemment, et là il l'a enseveli, et là il est arrivé. Il était plus que le seul, mais c'est pas vrai, il était pas le seul, puisque l'autre, il était en plus, il est enseveli avec deux types, donc il n'était pas le seul. Donc logiquement, l'histoire n'aurait pas dû se faire dès le premier. Pas grave. Et évidemment, dans le 2000, là, c'est un cadre évidemment un peu exceptionnel, puisqu'il y avait une série, oui, avec Adrian Paul, hein, qui jouait Duncan MacLeod.
Ça se passait à Paris d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Il habitait sur une péniche.
Oui. Et ben voilà, Duncan et Connor vont évidemment combattre contre le gros méchant, évidemment. Là, Christophe arrête et c'est Adrian qui fera donc le dernier, le Highlander, le gardien de l'immortality, évidemment, qui va revenir carrément aux sources du Quiggenig. C'est extraordinaire.
Oui, non, mais juste avant que tu partes dans ta chère Cocorico Patrie, je veux juste souligner le cas Avatar, quoi. Donc, il n'a pas fallu longtemps avant que James Cameron annonce dans une trilogie Avatar, après le succès monumental rencontré par son film avec 387 millions de budget et presque 3 milliards récoltés, Avatar est rentré dans l'histoire du cinéma. Le réalisateur s'est d'ailleurs lui-même détrôné en battant le record détenu par Titanic. Donc, 2 ans après la sortie du film, et 1 an après l'annonce officielle de la trilogie, le temps de faire le point est venu. Donc James Cameron a toujours été très attaché au questionnement sur l'environnement. Donc les extraterrestres d'Abyss empêchaient une guerre nucléaire. Terminator et Titanic illustraient les dangers de la machine mal utilisée. Et le premier Avatar mettait en scène une violente déforestation industrielle. Tiens, puisque je souligne Terminator, j'ai vu que Mister Choisy avait...
Oui, bah voilà, encore une autre suite. Hein.
Allez, rempiler, oui.
Voilà, c'est ça. Là aussi, on n'en a pas parlé, mais bon.
Mais le réalisateur rassure, ça reste avant tout un spectacle. Je ne vais pas parler 2 fois plus de l'environnement juste parce que le premier a été un succès. Je veux que les spectateurs ressentent l'adrénaline et l'excitation que l'on a en découvrant un tout nouveau monde. Quant au troisième film, donc le dernier, il devrait décoller dans les étoiles. Il y aura d'autres planètes. Ce sera un régal pour les yeux. C'est Mr. Cameron qui dit, hein. Ce n'est pas moi. Nous avons créé une toile de fond, non seulement pour Pandora, mais pour tout le système planétaire Alpha Centauri AB. Et nous explorerons ce système qui fera partie donc d'une nouvelle histoire, pas nécessairement dans le deuxième film, mais plus dans le troisième, donc déclaré Mr. Cameron. Depuis, certaines rumeurs parlent d'une nouvelle planète nommée Nukobia. Donc les dates, hein, vous me dites quand. Donc tournées simultanément, Avatar 2 et 3 donc, sortiront pour les fêtes de Noël en 2014 et 2015.
Oh bah tiens.
En attendant, il faudra attendre Les Seigneurs des Anneaux qui seront en décembre.
Oui, tout à fait aussi.
Mais 2013, lui.
Oui.
Donc,
2014.
Oui, ces dates sont encore bien loin. Avant cela, donc, les fans, bien sûr, américains, entre parenthèses, hein, il faut le dire, pourront peut-être patienter avec la construction d'une attraction Pandora à Disney World qui donnera l'occasion de voir, entendre et toucher du bout des doigts le monde fantastique, et surtout de s'en mettre plein les fouilles. En attendant, les deux films qui s'annoncent à la hauteur du cinéaste grandiose et démesuré.
Oui, ben ça me fait rigoler puisque finalement Pirates des Caraïbes, lui, c'était l'inverse puisque c'était issu d'un manège de Disney qui voilà. Igor Vremensky avait fait les fameux films. Moi, j'avais eu des vents comme quoi l'histoire.
Tu as des vents ?
Oui. Sur le 2, c'est qu'évidemment on va avoir les origines, donc un préquel, hein, en gros, du premier chevaucheur de la dernière ombre. Oui. Évidemment, alors The France, puisqu'évidemment, nous n'échappons pas, évidemment, hein, on a eu les gendarmes de Saint-Tropez, évidemment, de notre cher Jean Giraud, avec évidemment Louis de Funès, hein, le Saint-Tropez, il se marie, il part en balade, il y a les extraterrestres, et enfin, finalement...
Il va à New York.
Non, et les gendarmettes. Cruchot, Gerbert, Josepha, classique. Plus proche de nous, évidemment, les Astérix et Obélix aussi, hein, de Claude Zidi en 99, donc Christian Clavier, Astérix, Depardieu, Obélix, qui lui, par contre, restera les quatre films.
Oh, Astérix, on n'a pas de chance.
Donc, Roberto Benigni est le premier méchant dans Détritus. Alors, par contre, ce qui est un peu marrant, voire un peu morbide, c'est que le premier Panoramix, c'était Claude Pieplu, mais qui a disparu. Ensuite, ça a été Claude Riche qui a disparu. Et ensuite, le dernier, c'était Jean-Pierre Cassel qui lui aussi a disparu. Donc, ça porte un peu la poisse quand même, hein.
J'espère que ça passe Jean Rochefort, le prochain.
Donc voilà. Donc, évidemment, le deuxième qui a le mieux marché, évidemment, le Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, avec Alain Chabat en tant que César. Jamel Debbouze, évidemment, le numéro bis. Évidemment, là, la grande clique de Canal+, vous remercie. Le troisième qui a été vraiment le plus malheureux, hein.
Le navet.
Le navet, aux Jeux Olympiques de Frédéric Forestier. Évidemment, alors là, par contre, c'est Clovis Cornillac qui s'y colle. Pour faire Astérisme, avec Benoît Poulvorde en méchant, hein, Brutus, évidemment. Alors, je pense que là, ils ont essayé de racoler carrément tous les fans de Kaamelott, puisqu'il y avait la présence d'Alexandre Astier.
Quelle horreur!
Oui, ben non. Évidemment, le dernier en date, Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté, avec Edward Baer. Hein.
Si, excuse-moi de te couper, c'est pour revenir aux Jeux Olympiques, ça n'a pas été le navet en tout, puisque ça a été l'un des films les plus chers du cinéma français, qui avait coûté 78 millions d'euros.
Oui, mais parce que évidemment, ce qui était super marrant, c'est surtout de la fin, puisque là, on a tous les stars.
Oui.
Évidemment, il y a Schumacher qui se présente, Zizou, Amélie Mauresmo, oui. Tony Parker. Évidemment, voilà, pour un bel hommage au sport. Hein. Donc
oui.
Voilà.
Par contre,
moi, ce que j'avais bien aimé, c'est quand numéro 8 apparaît, qui regarde Clovis Cornillac, qui dit toi, t'as changé, toi. Mais effectivement, ce n'est plus le même comédien. Donc, évidemment, le dernier, donc, évidemment, au service de Sa Majesté avec Miss McIntosh, hein, Valérie Lemercier, moi, que j'ai bien aimé. Hein. Bon, il reste un petit peu en dessous de Mission Cléopâtre, mais il est quand même assez pas mal. Puisqu'il y avait aussi notre cher ami, et que tu adores, ce comédien représente évidemment tout le staff du cinéma français, c'est Taxi de Luc Besson en tant que producteur, évidemment. Donc, évidemment, le premier de Gérard Pires, puis les trois autres sont de Gérard Krovski. Donc, avec Samine Nasseri, donc il joue Daniel Morales. Qui joue Lily. Frédéric Diffental, évidemment. Emilien Coutant, une grande star, évidemment. Évidemment, Emma Schoenberg qui joue Petra. Alors là. Évidemment, merci, la musique, c'est génial.
Il y en a eu 4 quand même.
Oui, il y en a eu 4 hein, quand même. Oui, hélas. Oui.
Ça finit avec 6.
Oui, c'est ça.
Le meilleur là-dedans, c'est le commissaire finalement.
Oui, je confirme aussi. Ouais, il est complètement barré. J'aime beaucoup. Oui. Évidemment, autre œuvre de comme ça, Luc Besson. Le Transporteur de Louis Leterrier.
Avec Tatam.
Jason Statham. Statham. Ben oui, mais j'ai toujours l'habitude de dire Statham. Évidemment, notre cher François Berléand qui joue l'inspecteur Tarconi. Donc, ces fameuses règles, ne jamais modifier le contrat. Deuxième règle, pas de nom. Troisième, ne jamais ouvrir les colis. Et troisième, quatrième, ne jamais briser aucune règle, évidemment. Il va le faire, puisque sinon... j'ai bien aimé le 2. Alors, le deuxième, évidemment, c'est Louis Terrier. Et évidemment, le troisième, c'est Olivier Mégaton en 2008 avec Natalia Rudakova.
Surtout si vous avez une Audi, ne faites pas les figures.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, effectivement.
C'est pas conseillé.
Ouais, voilà, on se retrouve un petit peu. Ouais, c'est, bah, de toute façon, c'est un peu comme dans les Fast and Furious. C'est un hommage aux grosses voitures, hein, puisqu'évidemment, notre Fast and Furious. Par contre, là, évidemment. Alors, par contre, tu vois, on parlait de nos reboots et tout. Bah, le dernier de Fast and Furious, finalement, en quelque sorte, c'est un c'est mi-reboot, mi-préquel, puisqu'évidemment, voilà, le méchant est un peu à l'origine des Fast and Furious. Donc voilà, évidemment, on n'a pas fait la liste de tous les films qui avaient des suites, parce que ça en serait évidemment sans fin. Hugo voulait rajouter quelque chose avant qu'on glisse vers le pastel.
Oui, glissons. Beaucoup de films donc et leurs suites sont devenus cultes de nos jours, comme Jurassic Park, hein, on ne l'a pas dit, mais...
Aussi, oui.
Retour donc vers le futur, Star Wars, etc. Voir une suite d'une vieille saga, je dis oui, du moment que ça ne nuit pas au précédent. Pourquoi un Die Hard 5 ? Moi, je continue à le dire, ça ne sert à rien. Puis, il y a ceux qui reviennent juste pour dire « ne nous oubliez pas ». Je pense que c'est un peu ça, en fait, le 5. Et qui, parfois, font plaisir à voir, comme le Die Hard 4. Moi, je trouve qu'il était très bien. Qui a été plutôt pas mal après 12 ans d'absence. On peut prendre donc aussi le cas d'un Expendable et Red, puisqu'ils vont en faire un 2.
Oui, aussi, oui.
Même si le scénario, donc je parle de Expendable, laisse à désirer, on y va pour le casting, pour voir les bons vieux acteurs que l'on aime tant. Enfin, de l'époque. Dans ce cas, des suites pour en voir encore plus, je dis oui. Donc les suites d'aujourd'hui sont les sagas de demain. Certains univers ont tellement le potentiel que les suites sont inévitables et bienvenues. Rien qu'en prenant Marvel et DC Comics, hein, parce que là on va en manger, je pense, pendant un moment,
oui,
on pourra voir
sûr.
Un film par mois pendant 20 ans avant que les possibilités s'épuisent. Si les scénarios, bien sûr, tiennent la route, chose que DC a du mal à faire, apparemment.
Bah, moi, je pense que, aussi, pour en revenir à ton Die Hard, je pense que c'est aussi parce que Bruce Willis était en vogue à une époque, hein, avec les Expendables. Il n'a pas arrêté de sortir des films, donc je pense qu'il y a un moment, les mecs se sont dit qu'il y avait un bon créneau à faire son film à ce moment-là, puisqu'il avait le vent en poupe. Donc, je pense qu'il y a ça aussi.
Non, mais c'était bien, moi, je trouve l'idée de Stallone de mélanger les nouveaux et les anciens, puisqu'il prend
Oui, non, mais moi, je. Ouais. Puis il y a un bon. Un bon. Comme ça s'appelle. Un bon duo entre les deux. Donc, effectivement. C'est vrai que c'est difficile parce que de dire tout, évidemment, on a oublié beaucoup, hein, je pense. Et donc, on a fait. Moi, j'ai.
On pouvait pas tout faire, de toute façon.
Bah, non, et puis bon.
Ça aurait été, de toute façon, lassant parce que ça aurait été une suite de films ailleurs.
Oui, non, puis bon, ça a déjà été un petit peu, mais voilà, c'est pas faux en même temps. Alors, effectivement, je pense qu'il y a aussi, pour certains, un petit peu la crise de la trentaine, quarantaine, dirais-je même. Et donc, effectivement, on veut retrouver ce qu'on avait connu dans notre enfance. Donc, je pense que ça aussi. Je pense qu'effectivement, pour certains auteurs, certains réalisateurs et surtout certains sociétés de production, il y a bon à faire du remake parce qu'on s'en fout, on sait qu'il y a des fun, donc on va leur servir à tout sauce. Donc voilà, après il y a des bizarrement comme les Missions Impossibles, on sait pas pourquoi d'un coup les grands réalisateurs se sont mis tous à faire ça. Donc voilà, donc je pense que ça vaut, il y a des suites qui valent le coup et d'autres évidemment à éviter. Donc voilà, après moi, nous on laissera évidemment les spectateurs faire leur propre choix, évidemment, voilà. Donc nous allons nous glisser évidemment vers notre pastel, hein, qui ne fait pas de suite, c'est un cadre un peu
Special,
parce qu'évidemment, on se retrouve évidemment
avec des films
qui sont évidemment des films qui passent au pastel. La fête aussi de la Croix de Mans et aussi la fête de la
Musica.
On va d'abord commencer par les films, on fera la transhumance et on finira par la fête de la musique.
Ouais.
Alors évidemment, le premier film, c'est un film suédois, Eat, Sleep and Die. Donc,
Gabriela Pichter.
Voilà, avec Nermina Luka, Milan Dragzi et Jonathan Limpenen.
D'accord. Donc, vous êtes-vous jamais demandé qui emballe sous plastique la salade fraîche que vous mangez au déjeuner. Qui sont ces personnes qui perdent leur emploi suite à des licenciements dans les usines des petites villes rurales? Êtes-vous prêt à visiter une autre Suède? Donc c'est une histoire d'une ouvrière, Rasa, jeune et énergique, suédoise musulmane d'origine balkanique, qui perd son emploi et qui va affronter un univers caricatural de la bureaucratie. Donc tous les personnages principaux du film donc, sont interprétés par des acteurs non professionnels.
Tout à fait, oui.
Donc avec une caméra portée à l'épaule dont elle n'abuse pas, elle filme sans effet, virgule, modestement attachée à révéler donc, des instants rares. C'est donc sur la Suède, hein, il faut le dire aussi.
Oui, ouais, mais c'est l'autre visage de la Suède.
Oui, qui a un rapport difficile avec sa propre image. Donc elle doit assumer la Suède, bien sûr, son statut de pays d'immigration et de terre d'asile.
Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réalisatrice s'est inspirée de son propre vécu, puisqu'elle est d'origine bosniaque hein, et autrichienne par ses parents. Et elle est issue d'une classe ouvrière comme son personnage. Comme elle, elle a travaillé évidemment dans une fabrique de biscuits avant de prendre son envol. Je pense que c'est un film un peu dur à voir. Voilà. Ensuite, il y a Les Fils du Vent de Bruno Lejean.
C'est un documentaire. Hein.
C'est un documentaire. Oui, 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 c'est un documentaire sur évidemment le jazz manouche.
Donc, il s'appelle Angelo Debar, Moreno, Ninin Garcia, Chevolo Schmidt. Comme les cuisines encore. Ils sont guitaristes, ils sont manouches, ils jouent et perpétuent la musique de Django Reinhardt. Donc, ils cultivent aussi un certain sens de l'humour, de l'amitié, une communauté qui préserve donc un mode de vie authentique et singulier où malgré les difficultés, l'important reste le plaisir de jouer. Mmh. Donc c'est un bel hommage à des musiciens inconnus du grand public. Et aussi ce documentaire pointe donc des failles sans soulever de questions, mais laisse la part belle à leur jazz envoûtant.
Oui, et puis aussi c'est un documentaire rare puisque les manouches sont quand même réticents à se confier de cette manière-là à la caméra. Donc déjà rien que ça, évidemment pour ceux qui adorent Django Reinhardt, c'est le film à voir. Alors ensuite,
Hiver Nomade, oui, le film de
Manuel von Strüller, l'histoire de Carole et Pascal qui apparemment eux ils ont il y avait eu déjà plusieurs documentaires sur eux quoi. Donc ils étaient assez réticents pour faire un film. Ils sont passés juste à côté de la maison de Manuel. Il y a eu une rencontre et il a décidé de vraiment faire un film sur ce couple.
D'accord. Donc, il a été meilleur documentaire 2012 à l'European Film Awards. Mmh. Donc, comme tu disais, Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale avec 3 ânes, 4 chiens et 800 moutons.
Ouais.
Donc, pour la nuit, ils ont une bâche et des peaux de bêtes comme seul abri. Donc une odyssée hivernale au cœur des montagnes, de la nature et du monde rural. Visuellement, le spectacle est un pur régal. Donc regard respectueux entre le maître et l'apprenti, hein, c'est aussi ça.
Oui.
Filmé avec pudeur, même si ça manque d'approfondissement et de confession.
Mmh. Oui, oui, parce qu'il faut savoir quand même que le couple, c'est une transhumance de 4 mois sur plus de 600 km quand même. Donc évidemment, c'est un bel hommage. Et puis ensuite, évidemment, puisqu'on là, on est dans le cadre de la transhumance, puisqu'évidemment, pour Hiver et Nomade, il y a échange avec des professionnels du pastoralisme à l'issue de la projection du dimanche 23 juin à 17h30. Bergère à l'estive, hein, d'un documentaire de Luc Guétraud. Donc c'est l'histoire de 3 bergères, donc Fanny, Lucie, hein, 3 jeunes bergères qui vont évidemment gambader avec leurs petits moutons hein, tout seuls. En fait, elle représente ce qu'on appelle la nouvelle génération des citadines qui veulent se mettre évidemment à l'estive. Donc ils se retrouvent seuls avec 1000 à 3000 bêtes. Il y a un échange à l'issue de la projection du samedi par contre là, 22 juin à 14h30 avec des techniciens du service pastoral de la Drôme.
Et donc le 21 juin monsieur.
Donc le 21 juin, alors il y a un film et intermède en musique, puisque tout débutera, les événements débuteront à 18h avec l'événement, le film Les Fils du Vent. À 20h, il y a un duo danse contrebasse avec Florence Bressec et Gilles Roy. Puis, on réintègre l'espace clos à 20h15.
On mange aussi.
Oui, aussi, c'est vrai. Mais il y a un film, Les couleurs du prisme, la mécanique du temps. Donc, un documentaire de Jacqueline Coe. Et puis, évidemment, il y a à la fin de cette séance, à 22h15, il y a quelques chansons de Christo Rodillon. Et puis, à 22h40, pour clore notre retour de notre cher Sugarman. Voilà. Évidemment, les grignoteries sont prévues. Sans doute peut-être des côtes d'agneau, hein. Sait-on jamais. Ça fera thématique avec... la fête de la transhumance, en espérant évidemment que là, il n'y aura pas d'histoire transgénique et qu'il n'y aura pas de Black Sheep. Alors, puisque nous en sommes arrivés à la fin de cette émission,
au revoir.
Je me tourne vers notre cher Hugo en lui demandant qu'est-ce qu'il a prévu pour la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Oui, la semaine prochaine, mais en totale excitation.
Oui. Alors, ben, on va parler des films à polémique.
Eh ben, c'est super. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que vous irez quand même au cinéma, même s'il fait beau.
Pour voir les suites.
Voilà, pour voir les suites, hein, puisqu'on va s'engaver encore pendant quelques années. Je vous dis au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et comme dirait l'autre, I'll be back. I love the smell of napalm in the morning. Life is like a box of chocolates.